Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes en quête de sagesse, ou tout simplement inspirés, partagent avec nous leur parcours de vie et nous donnent des pistes pour grandir en humanité. Je suis partie à la rencontre de ces chercheurs d'hier et d'aujourd'hui. Vous écoutez Envie de Sagesse.
Bonjour à tous, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la Genêt, et vous êtes avec Myriam. Je vous attends pour un nouveau numéro d'Envie de Sagesse. Aujourd'hui, je suis avec une femme qui a un parcours de vie assez exceptionnel. Elle s'appelle Zarina Khan. Alors, elle a des multiples origines dont elle va nous parler tout à l'heure. À la fois tunisienne, russe, pakistanaise, française. Zarina Khan est auteure, metteur en scène de 50 créations théâtrales. Elle est auteure de 14 scénarios. Elle a réalisé aussi 10 films. Elle est philosophe, créatrice de la méthode des ateliers d'écriture et de pratique théâtrale Zarina Khan. Mais surtout, elle applique cette méthode d'écriture dans des situations de conflit, par exemple à Sarajevo, à Beyrouth, en guerre, et dans les tensions dans des quartiers difficiles. Et cela lui a valu en 1995 d'être nommée experte pour la paix par l'UNESCO et en 2005 d'être nominée au prix Nobel de la paix. Bonjour Zarina.
Bonjour.
Alors vous avez des origines multiples, vous avez des ancêtres illustres, vous avez une vie hors norme. Et ce que j'ai lu de vous, c'est que vous aviez une vie qui pourrait en fait se retrouver dans un roman. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur votre parcours, sur vos origines?
Alors déjà, si ma vie peut se retrouver dans un roman, eh bien ce roman, je l'ai écrit. Je l'ai écrit les 7 dernières années. J'ai écrit le roman vrai de ma vie en 3 tomes. Donc La sagesse d'aimer, La forge solaire et le dernier qui est paru en 2021, L'œuvre à la joie. Donc c'est vrai que ma vie a été un entrelacement d'origines puisque ma mère était russe, née de parents russes blancs qui ont fui la révolution d'octobre en 1917, qui se sont retrouvés en Tunisie où ils ont fondé avec d'autres russes qui fuyaient également la colonie russe de Tunis qui est très peu connue. Et c'est là que je suis née, alors que la Tunisie était un protectorat français, et c'est pour cela que je suis devenue française. Ma mère, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est engagée dans l'armée française, puisqu'elle avait aussi la nationalité française, mais elle n'avait jamais été en France, et elle est arrivée en France pendant l'occupation, et elle est devenue lieutenant de l'armée française. Et après cette guerre, elle a été invitée à aller dans un tout jeune pays qui était en train de naître et qui s'appelle le Pakistan, où elle a rencontré mon père qui était indien et qui devenait pakistanais avec la création de ce pays. Donc c'est vrai que c'est une histoire
incroyable.
C'est une histoire qui valait. Moi, je suis écrivain depuis toujours.
Je ne l'ai pas dit dans la présentation, j'allais en parler, effectivement. Vous êtes aussi écrivain.
Je suis écrivain depuis l'âge de 4 ans, donc ça s'appelle une vocation, c'est-à-dire que je n'ai même pas choisi que j'écrivais déjà. Et c'est vrai qu'il y a 7 ans, je me suis rendu compte que l'histoire de ma vie recoupait tous les grands événements du XXe siècle. Et que je les ai vécues de l'intérieur, dans ma famille, avec toutes les blessures et les joies que cela peut procurer.
Ah oui, c'est assez incroyable en fait. C'est un croisement d'histoire, de l'histoire humaine et de votre histoire qui se retrouve avec des croisements complètement improbables.
Tout à fait.
Imaginez aujourd'hui un Pakistanais avec une Russe, c'est vrai que c'est assez
étonnant. C'était le premier couple mixte de ce nouveau pays qu'était le Pakistan. Et ça a été une épreuve, comme ça l'est encore dans de nombreux pays, quand on entrelace les religions dans un couple.
Et oui.
C'est très mal vu.
Ah oui, parce que votre père était donc musulman ?
Mon père était musulman, ma mère était russe orthodoxe, donc chrétienne, et c'est vrai que leur mariage a dérangé tout le monde, et moi j'étais le fruit du péché.
Ah, c'est alors que je trouve ça tellement enrichissant et tellement beau. Moi, je dirais que vous êtes plutôt le mariage de deux cultures, de deux fois, et ça peut donner quelque chose. Et c'est le cas chez vous. Après, puisque j'imagine que ça a semé une ouverture plus grande.
Moi, je voulais avoir toutes les religions, en fait. Et donc, je les ai eues. J'étais musulmane à ma naissance. Ensuite, je me souviens de mon baptême orthodoxe à l'église russe de Tunis, puisque j'avais 4 ans. Ensuite, ma mère a épousé en seconde noce un Allemand qui était protestant. Ensuite, j'ai quitté cette maison parce que ce beau-père était un ancien nazi. Et donc, j'ai quitté cette maison très tôt, à l'âge de 12 ans. Et je me suis retrouvée dans une pension en Suisse où j'ai été élevée en quelque sorte plusieurs années par des religieuses dominicaines, donc catholiques. Et ensuite, très jeune, j'ai épousé un homme juif d'origine polonaise. Donc j'avais réuni en fait dans ma vie les religions et je me suis rendu compte de la difficulté à vivre lorsqu'on n'appartient pas, j'ai envie de dire, à un clan, à un dogme. On est souvent rejeté de partout et il a fallu que je trouve en fait la seule issue possible lorsqu'on ne veut pas sombrer dans la haine, dans l'exclusion, avec toutes les frustrations que cela entraîne. Je me suis dirigée vers le haut, j'ai envie de dire, vers les espaces sacrés, vers l'élévation, vers la création, parce que l'art est un espace pour moi extrêmement précieux. C'est le seul espace que j'ai trouvé dans ma vie qui permet de sortir de ses appartenances mortifères, de devenir soi dans une place qu'on crée parce que je n'avais pas de place réservée. C'est comme monter à bord d'un train où vous n'avez pas de place. Eh bien, quelquefois, vous êtes obligé de créer même un wagon dans lequel vous pourrez embarquer des êtres comme vous qui n'appartiennent pas à un seul clan, à un seul camp.
Oui. Donc,
et c'est vraiment ça qui m'a permis de traverser avec joie ce qu'a été ma vie.
Et donc, on va revenir sur justement cet art qui est si important pour vous, mais je voulais faire une parenthèse en écho à ce que vous venez de dire. Donc, aujourd'hui, vous diriez que tout ce que vous avez vécu, finalement, c'est un petit peu ce que j'entends, c'est pour pouvoir aider à votre tour ceux qui vivent la même chose aujourd'hui.
Je pense que c'est la seule chose d'importante sur Terre. Lorsqu'on arrive sur Terre, on va se heurter à un certain nombre d'obstacles, de difficultés. Et chaque fois qu'on va trouver chacun une solution pour survivre, ensuite pour vivre pleinement sa vie, je pense que ces solutions, nous n'avons pas d'autre choix que de les partager. Et moi, chaque fois que je trouvais une petite issue à ma douleur, à mon chagrin, à ma solitude, eh bien, je la mettais dans ma petite caisse à outils, toute petite déjà, que j'ai commencé à fournir ma caisse à outils, en me disant ça va servir à d'autres, parce que des autres comme moi, je vais en rencontrer, des autres qui sont exclus, des autres qui sont dans l'exil, dans le chagrin, dans la séparation, je vais en rencontrer sur ma route. Et là, j'ouvrirai ma caisse à outils et je leur offrirai mes petits outils que j'ai forgés doucement, pas à pas, pour devenir, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Je crois que sans avoir conscience, quand j'étais enfant, j'ai déjà trouvé des solutions magnifiques comme l'écriture. Dès que j'ai eu les lettres de l'alphabet, je me suis empressée d'écrire un premier poème pour quelqu'un que je ne connaissais pas, qui peut-être un jour le lirait, mais c'était déjà un cadeau pour moi de pouvoir l'écrire et de transformer en fait le chagrin, la douleur, parce que en soi le chagrin c'est un poids. Alors que quand on le transforme, ça devient des ailes. On peut commencer à voler. Et quand on vole, on survole des paysages magnifiques et on s'éloigne de sa douleur. Donc ces ailes aussi, elles sont ciselées maintenant après tant et tant d'années. Et j'ai tenté de permettre à d'autres d'ouvrir leurs ailes, en particulier dans mes ateliers.
Et oui, donc c'est très beau ce que vous dites. Donc vous avez... Donc, consacrer toute votre vie particulièrement au théâtre, à l'écriture et au théâtre, si on peut dire.
Voilà, ça a été l'outil majeur, ça a été l'écriture et le théâtre. Je ne les dissocie pas parce que j'ai toujours créé en fait les pièces de théâtre avec d'autres. Je les ai appelées à écrire, mais et surtout ceux qui n'écrivent pas. Et surtout ceux qui ne jouent pas, qui ne sont pas acteurs, je les ai appelés à devenir acteurs, à devenir auteurs, à devenir metteurs en scène, pour que dans ces espaces où, vous savez, au théâtre, on a la joie de pouvoir faire des répétitions. C'est-à-dire, si on se trompe, on peut répéter jusqu'à ce qu'on soit tout à fait bien pour partager avec un public. Sauf que dans la vie, on n'a pas de répétition. Si on va à un rendez-vous et qu'on entre et qu'on n'est pas affirmé, on n'est pas vraiment soi, le rendez-vous, l'entretien d'embauche ou le rendez-vous amoureux va peut-être dériver parce qu'on ne saura pas dire ce qu'on a envie de dire, ce qu'on ressent. Et dans la vie, on n'a pas la chance de répéter. C'est-à-dire que le rendez-vous est raté, il est raté. Et je crois qu'au théâtre, justement, cette immense chance de la répétition permet d'ancrer en soi déjà une estime de soi, une confiance en soi, qui fait que lorsque dans la vie nous aurons à jouer un rôle, puisque dans la vie nous jouons aussi des rôles, mais sans répétition et sans cadre, eh bien, être vrai, ça va devenir le plus beau rôle de notre vie. Être vrai, être soi, et pouvoir s'annoncer en tant que la personne que nous sommes à l'instant où nous parlons. Et ça, c'est le théâtre qui le permet. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé, comme vous l'avez dit dans votre introduction, dans les pays en guerre aussi, dans les pays où la mort rôde, et aujourd'hui, alors que nous faisons cet entretien radiophonique, nous sommes en guerre. Il y a des êtres qui, à l'heure où nous parlons, sont oppressés. Il y a des soldats qui meurent aussi. Et je pense que c'est important de se dire que là, nous avons cette chance immense de pouvoir dire, de pouvoir leur envoyer notre soutien, notre pensée et les actions qui sont en train de se mettre en place. En tant que Russe, vous pensez bien que cette guerre me touche.
Ah ben c'est ce que, oui, c'est ce que j'allais vous dire, effectivement, encore plus avec votre double, votre multiple origine, j'imagine. Et j'allais dire que vous êtes donc une artiste de la paix, j'allais dire à la fois artiste et à la fois artisan de paix.
Je crois que c'est ça ma fonction première, oui. C'est ma fonction première, c'est d'amener la paix dans le cœur, que la haine ne dévore pas, parce que lorsque la haine vous dévore, lorsque l'autre est un ennemi et uniquement un ennemi, on n'avance plus, on stagne dans quelque chose qui est terrible, qui nous dévore à l'intérieur. Donc apprendre à voir l'autre comme un frère, même lorsqu'il est un ennemi, c'est sans doute la chose la plus difficile, mais c'est aussi le seul engrais de la sagesse. Il n'y a pas d'autre sagesse que d'essayer de voir l'autre dans toute la fraternité du vivant, en fait. Pour moi, l'écologie qui commence à peine à balbutier aujourd'hui dans, dans différents pays qui commencent doucement à se mettre en place, en tout cas à être appelés à se mettre en place. C'est une écologie aussi où tout le vivant est relié, où les êtres humains, mais aussi tout ce qui nous environne est relié. Et que chaque fois qu'on entre dans une division, dans une séparation, on est porteur de guerre, on est porteur de barbarie, quelquefois. Donc, moi, j'ai beaucoup d'animaux que j'aime beaucoup, mes chats, mon chien. Ce sont des êtres qui m'entourent. Je suis entourée de nature aussi et je tente dans la petite vie que j'ai, parce que nos vies sont courtes, même quand nous vivons longtemps, c'est une étincelle dans l'histoire de l'humanité. Je tente d'entrer dans cette écologie globale qui se résume à un seul mot, qui est le fait d'aimer, aimer ce qui est, aimer ce qui nous entoure, aimer la nature telle qu'elle a été incroyablement créée.
Alors, je vous propose une petite pause musicale. Nous allons revenir dans un tout petit instant pour écouter à nouveau Zarina Khan qui nous parle de paix. Thank you. Vous écoutez Radio Bulle, votre radio de la Genêt 93.6. Vous êtes toujours dans l'émission Envie de sagesse avec Myriam. Je suis en compagnie de Zarina Khan, une artiste de la paix qui a utilisé l'écriture et le théâtre comme un outil de paix en elle-même et également pour aider les autres. Elle en a fait un outil de réconciliation. Est-ce que c'est bien ça, Zarina ?
Oui, de réconciliation. Je pars du principe que l'expression est un droit. D'ailleurs, c'est dans la Convention internationale des droits de l'enfant, hein, qui est très récente, hein, qui date de 1989. Il est écrit que l'enfant a, comme il a le droit d'avoir un toit, d'avoir à manger, de recevoir des soins, il a également un droit fondamental qui est celui de l'expression. Et en fait, je pense que l'expression, oh, je ne le pense pas, je le vis. C'est pas seulement une pensée, c'est un vécu absolu. L'expression, lorsque on se permet de dire dans un cadre donné, que moi j'ai choisi comme étant celui du théâtre, mais ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, s'exprimer pour dire son sentiment profond, c'est l'alchimie majeure. Ça permet de transformer les épreuves en une œuvre qui crée de la beauté. Et je crois que le plus important, c'est que, vu l'histoire du monde qui est jalonnée d'horreur et de barbarie, ce qui est important, c'est chacun d'apporter notre petite création de beauté à ce qui est, de restituer la beauté. Et là, on se réconcilie. Parce que la beauté est réconciliante, parce que l'amour circule lorsque la beauté arrive. Et elle arrive dans les lieux les plus incongrus, les plus inattendus. C'est pas seulement dans les musées, elle est partout. Si tout à coup on aiguise notre regard et qu'on apprend à la regarder. Donc, et l'autre qui ne nous plaît pas, l'autre, vous savez, aujourd'hui on dit beaucoup j'aime ou je n'aime pas. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à accepter parce que on peut pas balayer quelqu'un ou quelque chose en disant « Oh, j'aime pas », parce qu'il est. Il est celui qu'on n'aime pas. Donc, s'il est, on n'a pas d'autre choix que de l'aimer aussi puisque nous sommes un ensemble. L'humanité est un ensemble et que cet ensemble est inséparable. Nous sommes inséparables les uns des autres. Alors malheureusement, les appartenances, comme je le disais, ou les clans, ou les camps, ou les lobbies nous séparent, ne cessent de nous séparer les uns des autres. Et alors c'est la guerre réelle, ou c'est la guerre, la guerre d'ennemis aussi, qu'on ne voit pas, hein,
bien sûr,
mais qui existe.
Les guerres dans nos salons et dans nos cuisines.
C'est ça. Les guerres familiales, les guerres, voilà. Et donc j'essaye avec mes outils qui se forgent un peu plus tous les jours, j'essaye de proposer une autre approche, mais dans laquelle le dire est essentiel, parce que je crois vraiment que le non-dit qui est souvent dicté par je ne vais pas faire de peine. Je ne vais pas dire pour ne pas heurter, pour ne pas blesser. Eh bien, ce non-dit s'accumule et crée vraiment, construit des murs entre les êtres. Et les secrets de famille, les non-dits les plus lourds, nous savons aujourd'hui en psychologie aussi, mais depuis toujours en philosophie, que ce qui n'a pas été exprimé tue, peut-être lentement, mais c'est une forme de mort de ne pas dire.
Oui.
Donc, j'appelle à dire, j'appelle à écrire et j'appelle à créer pour que la vie devienne plus fluide, en fait, et que la souffrance soit partagée. Une souffrance, lorsqu'elle est partagée, c'est tout de suite, elle est tout de suite plus légère. Vous savez, c'est comme une valise qu'on porte à deux, à trois,
oui,
et bien,
oui.
C'est bien plus agréable.
Je suis d'accord, j'avais un petit tableau chez mes parents que j'ai contemplé toute mon enfance, tout simple. Hein. Alors, une joie partagée est une double joie, un chagrin partagé est un demi-chagrin.
Voilà, et l'art est l'outil majeur pour ça.
Oui. Et donc, tout à l'heure, vous nous confiez que, de par vos origines, vous étiez encore plus touché. J'imagine que ce conflit actuel, cette guerre qui s'est réveillée d'un coup, vous plonge dans vos propres, j'allais dire, traumatismes d'enfant, en plus de la violence qu'elle concerne chacun de nous, je veux dire. Mais vous, particulièrement, comment vous vivez cette situation ? Qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Je, pour l'instant, je suis encore ici. J'ai une amie hier qui me disait « Est-ce que tu es déjà sur les routes de la Russie ou de l'Ukraine ?» Mais j'attends. Généralement, lorsque je vais dans les pays en guerre, je suis invitée. Je suis invitée par des gens qui ont envie de poser un acte de paix, un acte de réconciliation. Ce n'est pas moi qui décide d'y aller. Donc, peut-être que l'invitation viendra et que j'irai en Russie, j'irai en Ukraine.
Et vous feriez quoi ? Vous proposeriez vos ateliers ?
Je ferai ce que j'ai fait à Sarajevo en guerre, où j'ai créé un atelier d'écriture et de pratique théâtrale. J'avais que 5 jours sur place, donc c'était extrêmement court. Et il y avait une situation militaire extrêmement dure, puisque beaucoup de bombardements à cette époque, c'était en octobre 93. Et pourtant, en 4 jours, nous avons écrit une pièce de théâtre, nous l'avons montée, et au 5e jour, nous l'avons jouée dans 3 lieux différents de Sarajevo pour que le public ne traverse pas cette ville bombardée de bout en bout. Donc, c'est nous qui traversions. Et ça a été des moments extraordinaires d'émotions partagées, de paix, de beauté. C'était des adolescents qui ont écrit avec moi, qui ont joué avec moi.
Ça devait être bouleversant.
Et c'était bouleversant. Et cette pièce, elle a fait le tour du monde. Elle continue à se jouer. Oui. C'est le dictionnaire de la vie. Elle continue à s'écrire aussi, ce qui vraiment est important pour moi.
Mais vous avez un sacré courage quand même.
Je fais ce que je sais faire. Vous savez, à l'époque, il y avait des infirmières qui partaient sur leur congé pour panser les blessures parce qu'elles savent le faire. Moi, je sais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire faire entrer les autres dans l'espace sacré de l'art et créer une œuvre ensemble. Donc, à un moment, je me suis rendu compte que peut-être il n'y aurait personne à ce rendez-vous. Et en fait, il y a 14 adolescents sont venus. Des parents ont compris l'importance pour ces jeunes enfants de dire, en fait.
Oui, c'est formidable.
Et je salue leur courage plutôt que le mien, parce que c'était difficile de laisser son enfant sortir d'un abri pour aller écrire et jouer une pièce de théâtre. Ça paraît, ici, je sais que ça nous paraît fou, alors que là-bas, ça a été vraiment compris et apprivoisé tout de suite.
C'est très beau, en tout cas.
Alors... Et actuellement, je vis en Ardèche, à Mirabel.
Oui, j'allais exactement venir, parce que vous avez un autre projet qui vous tient à cœur.
Alors, peut-être ce n'est pas en lien direct avec la guerre, mais la petite cité que je suis en train de reconstruire avec d'autres dans le village de Mirabel en Ardèche. C'est une cité aussi qui sera un refuge, qui sera un accueil pour tous ceux qui ont besoin de faire une vraie pause, une pause profonde, une pause pour revoir toutes les blessures, pour les guérir et pour repartir d'aplomb, repartir vers sa vie à soi et non pas une vie qu'on vous a tracée et qui est pleine d'embûches, quoi. Et cette petite cité, au cœur, il y a un temple protestant. Et c'est le temple protestant où, il y a 400 ans, Olivier de Serres, qui était un grand agronome et philosophe de la terre, philosophe de l'écologie déjà, même si le mot n'était pas prononcé il y a 400 ans. Mais c'est ce qu'il faisait. Il essayait d'expliquer dans son œuvre comment l'harmonie, nous en sommes garants. Nous sommes les garants de l'harmonie, nous humains, avec la nature, avec l'agriculture. C'était un grand sage, Olivier de Serres, c'est un de mes compagnons de route. Je joue beaucoup le spectacle que j'ai écrit sur lui, que je joue seule. Et voilà, j'emmène Olivier de Serres à la rencontre des autres aujourd'hui sur les routes, dans les campagnes et dans les villes. Et donc, ce temple protestant dans la citadelle de Mirabel, c'est un lieu où, il y a 4 siècles, se réunissaient autour d'Olivier de Serres des sages catholiques, des sages protestants, des sages de toutes les origines, d'Europe essentiellement, qui venaient à Mirabel pour tenter d'éviter la guerre de religion. Et ils n'ont pas réussi, mais le temps où Olivier de Serres était en vie, la guerre n'a pas éclaté dans ce qui était le Vivarais, qui s'appelle aujourd'hui l'Ardèche. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après sa mort, lorsque la guerre a éclaté, eh bien, ce temple protestant, il l'avait créé juste mitoyen d'une chapelle catholique. Et
Oui.
lorsque la guerre a éclaté, on a muré la porte du temple qui donne sur la ruelle. Donc les protestants n'avaient nulle part où se réfugier. Ils étaient persécutés, ils étaient tués dès qu'ils étaient vus. C'était la cible. Et les catholiques ont ouvert derrière leur autel une porte dérobée, puis une deuxième porte pour atteindre le temple. Et ainsi, ils ont sauvé des milliers de protestants qui pouvaient se réfugier dans le temple lorsque les soldats arrivaient, lorsque les soldats catholiques arrivaient. Donc, c'est vraiment ce lieu que je suis en train de rebâtir parce que c'est un lieu exemplaire. C'est un lieu exemplaire de quelques personnes humaines qui ont décidé d'aider l'autre alors qu'il était persécuté,
Différent,
qu'il
oui.
était d'une autre religion.
Ah oui.
Donc, la cité de Mirapolis, puisque c'est le nom du projet, Mira, Mirabel, ça veut dire Mira, regarde, belle, ce qui est beau, regarde ce qui est beau. Et dans Mirabel, j'ai créé Mirapolis, regarde la cité. Parce qu'en fait, si chacun d'entre nous crée une cité, une petite cité, même si elle est minuscule, ça peut être deux voisins sur un palier d'immeuble aussi qui ont
Ah oui,
l'idée de cette cité.
c'est fort
Et
symboliquement hein, que vous ayez envie de recréer cette, c'est la cité des différences en fait, le temple des gens
oui,
pour essayer de réunir toutes les différences, si on peut dire.
tout à fait, tout à fait. Et donc Mirapolis est en train de naître là. On va chercher des fonds, il faut qu'on trouve des fondations. Et puis, je vais sûrement lancer une souscription à un moment. Et puis, ceux qui auront souscrit pourront venir. Ce sera évidemment un lieu où l'art sera très présent. Il y aura des logements, des habitations, mais aussi des espaces communs qui seront dédiés à l'art,
Ah, c'est un très beau projet.
aux ateliers aussi, évidemment.
Très beau projet et j'imagine que vous allez que dans l'esprit de ce qu'était cette cité, vous allez par exemple comme les assises de la sagesse, vous allez inviter plusieurs traditions, vous allez inviter les sages d'aujourd'hui à se
Tout
réunir.
à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a déjà prévu d'inviter bientôt Philippe Yacine de Maison des Assises de la Sagesse pour qu'il fasse une retraite spirituelle cet été. Les projets n'arrêtent
Ah
pas.
oui, en effet. Je disais, je vous ai coupé. Ce qui sera d'ailleurs mon prochain invité d'Envie de Sagesse.
Ah, très bien. Ben, on s'entend vraiment très bien avec Philippe Yacine de Maison. Il est vraiment, j'aime beaucoup son humour. Il se prend pas au sérieux parce que quand on est sage, on cesse de se prendre au sérieux. Sans ça, on n'est pas sage.
Alors, si vous aviez un petit mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire?
Puisque votre émission s'appelle Envie de sagesse, j'ai envie de vous dire que pour moi, il n'y a pas de sagesse sans amour. Donc, la sagesse, pour moi, se suit toujours du verbe aimer. C'est la sagesse d'aimer. Le mot philosophie, vous savez, ça veut dire philo, j'aime, sophie, la sagesse. Donc, c'est l'amour de la sagesse. Mais moi, j'inverse les termes. Et j'ai envie de dire à tous, inversons les termes. C'est pas l'amour de la sagesse qui est important, c'est la sagesse d'aimer qui est la clé, en fait, de toutes les portes qui vont abattre les divisions, les séparations, et enfin nous réunir pour construire cette grande cité planétaire qu'est la nôtre, dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence, et réparer nos erreurs et pardonner aussi à ceux qui nous ont blessés.
Eh bien, merci sur ces très belles paroles. Je rappelle que La sagesse d'aimer, c'est le titre de votre livre. Et puis, Vous avez fait une trilogie. Vous avez écrit aussi La forge solaire, qui est la suite, et L'œuvre à la joie.
Voilà.
Donc, ce sont que des mots qui, à eux seuls, finalement, nous inspirent toute la route qui nous reste à faire. Et puis, comme on peut commencer, j'allais dire, aujourd'hui.
Tout à fait. Il ne faut pas attendre, parce que c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que le cœur peut s'ouvrir, que la sagesse peut nous remplir vraiment, nous qui sommes assoiffés hein, d'être aimés, d'aimer. Eh bien, soyons dans cette sagesse où on peut prendre le risque d'aimer l'autre et surtout celui que l'on n'aime pas.
Ah oui. Et on peut peut-être s'y exercer dans vos ateliers. Donc, vous proposez régulièrement des ateliers d'écriture et de théâtre. À peu près tous les mois, tous les deux mois.
Oui, les dates de mes stages d'ateliers d'écriture et de pratique théâtrale sont sur notre site. Si vous tapez zarinakan.org, il y a les dates des prochains stages. Là, il y en a un bientôt et ensuite, il y en aura cet été. Donc oui, c'est tous les 2-3 mois et il y a d'autres événements aussi à partager, des concerts, des moments de création aussi en musique, beaucoup de choses.
Merci beaucoup Zarina, c'était un vrai bonheur. Vous êtes bien dans l'émission Envie de sagesse avec Myriam sur le 93.6 Radio Bulle, votre radio de la Genève. J'étais en compagnie de Zarina Khan, une artiste au service de la paix. Au revoir Zarina.
À très bientôt, Myriam. Merci à vous et merci à ceux qui nous écoutent.